Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Des touristes à la sortie de l'avion, on en avait presque perdu l'habitude en Thaïlande ou encore en Israël. Ces destinations majeures du tourisme mondial rouvrent leurs portes ce matin aux visiteurs étrangers après 19 mois de fermeture des frontières. Comme un symbole du retour progressif à la normale, nous serons à Bangkok. Ça ne se normalise pas en revanche entre la France et le Royaume-Uni. À 24 heures de l'ultimatum de Paris, la crise de la pêche n'est toujours pas réglée. On va faire le point. Dans ce journal également, la COP26 accueille les grands dirigeants. Vous entendrez le scepticisme de Yann Arthus-Bertrand. La réponse du gouvernement aux élus qui ne veulent pas verser le RSA aux salariés non vaccinés et donc suspendus. Et enfin, en ce jour de Toussaint, rencontre dans quelques instants avec un photographe de cimetière.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le journaliste Mohamed Bouhafsi pour son livre « Rêver sous les coups » publié aux éditions Larousse. Après un an et demi de verrouillage des frontières, Alexis, le tourisme reprend pour plusieurs destinations phares.
Et d'abord la Thaïlande. Pour la première fois depuis la pandémie, des visiteurs étrangers vont découvrir ce matin les plages de Phuket ou les marchés de Bangkok sans passer par la case quarantaine. Le pays rouvre complètement ses frontières aux touristes vaccinés en provenance de 60 pays, dont la France. Il faut dire que ce n'était plus tenable pour cette économie thaïlandaise très dépendante du secteur touristique. Dans la capitale, à Bangkok, le reportage de Carole Izou.
Sur la rue numéro 11 du boulevard principal de Bangkok, un calme inhabituel règne depuis des mois. Pourtant, depuis quelques jours, les hôtels préparent des chambres, les restaurants font peau neuve et les chariots des vendeurs ambulants affluent. Bangkok s'apprête à recevoir des touristes en provenance de 63 pays. Alors que l'économie est moribonde, c'est une bonne nouvelle, accueillie parfois avec un peu d'appréhension par les plus fragiles comme cette vendeuse.
Avant, dans cette rue, il y avait plein de touristes. Les affaires marchaient pour tout le monde. Alors bien sûr, on est content, mais j'ai un peu peur que le virus revienne.
Au contraire, certains critiquent une réouverture timide puisque les bars qui ont contribué au succès de la Thaïlande restent pour l'instant fermés. Une possible volonté de débarrasser le pays d'une image sulfureuse liée au tourisme sexuel. Mais l'industrie de la nuit fait partie des atouts du pays. Pour ce gérant de plusieurs établissements de Bangkok, elle est appelée à se réinventer.
Sans les bars, ça va être compliqué parce que la Thaïlande est quand même connue pour sa vie nocturne. Ça peut laisser entendre une certaine volonté du gouvernement d'assainir, on va dire, les bars à filles, les go-go bars, etc., qui font partie de la scène nocturne thaïlandaise. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas refaire la même chose. Ça serait perdre une opportunité justement de se renouveler, de se réinventer.
La Thaïlande mise sur le retour d'au moins 1 million de touristes d'ici le mois de mars prochain.
Et sur toute l'année 2022, les autorités locales espèrent accueillir 15 millions de touristes, très loin malgré tout des 40 millions annuels avant la pandémie. Réouverture aussi aujourd'hui donc des frontières d'Israël aux visiteurs étrangers vaccinés et testés. L'Australie également rouvre ses portes sous conditions. Soulagement là-bas pour les expatriés australiens qui pour certains n'ont pas pu revenir voir leur famille à Sydney ou Melbourne depuis 19 mois. Aux États-Unis, elle avait refusé d'intervenir dans un premier temps. La Cour suprême se penche finalement aujourd'hui sur la loi anti-avortement du Texas. Ce texte interdit la grande majorité des IVG dans cet état du sud du pays. Et à peine appliqué, il a déjà des conséquences très concrètes. Le nombre d'avortements pratiqués a diminué de moitié en septembre par rapport à 2020. La Cour suprême doit donc examiner aujourd'hui les recours du gouvernement Biden, mais aussi du planning familial.
Il est 7h33, Alexis, dernières heures pour régler le conflit sur la pêche entre la France et le Royaume-Uni.
Car Paris menace de mesures de rétorsion dès demain si Londres n'accède pas à ses revendications, à savoir délivrer toutes les licences nécessaires aux pêcheurs français qui naviguent dans les eaux britanniques. Cette dispute post-Brexit n'en finit pas et hier, le tête-à-tête entre Boris Johnson et Emmanuel Macron n'a apparemment pas permis de la régler. Le président français prône la désescalade, mais ce matin, Richard Place, il n'en est rien.
Un député anglais de la majorité décrit Emmanuel Macron comme un petit Napoléon qui s'accroche au pouvoir. Le secrétaire d'État français aux affaires européennes dit que le gouvernement britannique ne comprend que le langage de la force. Bien loin de la pêche, c'est la guerre des mots, et parfois même des propos mal traduits. En témoigne la déclaration de Boris Johnson hier soir.
Je dois dire que j'ai été surpris en lisant une lettre du Premier ministre français demandant explicitement que la Grande-Bretagne soit punie pour avoir quitté l'UE. Je ne pense pas que ce soit compatible avec l'esprit de l'accord de retrait.
Sauf que Jean Castex n'a jamais écrit ça. Rien d'aussi explicite en tout cas. Dans le courrier qu'il a adressé à la Commission européenne, on peut lire « Il est indispensable de montrer clairement aux opinions publiques européennes qu'il y a davantage de dommages à quitter l'Union qu'à y demeurer ». Trop tard, la presse anglaise, les conservateurs et maintenant Boris Johnson ont choisi une autre traduction. Depuis quelques jours, on appelle à la désescalade des deux côtés, mais on en rajoute régulièrement. L'Élysée précisait hier que le différend porte sur quelques dizaines de bateaux et dit entrevoir une solution sans la détailler. C'est urgent, l'ultimatum que la France a elle-même fixé s'achève demain. Londres, Richard Place, France Inter.
Et Boris Johnson et Emmanuel Macron auront toutefois l'occasion de se reparler directement de cette crise de la pêche aujourd'hui, puisqu'ils vont se croiser à Glasgow, où 120 dirigeants du monde entier sont attendus pour la COP26, la conférence climat des Nations Unies. Chacun n'aura que 3 minutes à la tribune pour présenter ses engagements face au réchauffement climatique. Il faut faire plus vite et plus fort, plaident les ONG, pour espérer limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Des ONG déçues d'ailleurs par les promesses du G20 ce week-end à Rome. Et il en sera de même pour cette COP, prévient déjà Yann Arthus-Bertrand, le photographe et réalisateur écologiste très sceptique ce matin.
J'ai assisté à la première COP en 92 à Rio et chaque année on dit ça va être la plus importante. Sincèrement, les COP ne servent à rien du tout que médiatiser les catastrophes et ce qu'on doit faire. Mais vous savez, les hommes politiques sont dirigés par les électeurs et tant qu'on n'aura pas nous tous ensemble envie de bouger, ils ne pourront pas bouger. L'inertie, ce qui se passe, vous savez que le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans, sur lequel s'est assise notre civilisation, il est parti à jamais. Il ne reviendra jamais, c'est ce que disent tous les scientifiques. Et je trouve que les discours des hommes politiques ne sont pas à la mesure des catastrophes annoncées. Toutes ces grandes COP, c'est comme des réunions de copropriétaires où chacun tire un peu la couverture à soi. Mais en fin de compte, personne n'a envie de décroissance, ou du moins d'une croissance sans carbone, qui est extrêmement compliquée. Personne n'en a vraiment envie.
Le pessimisme de Yann Arthus-Bertrand, alors qu'à Glasgow, certains dirigeants de pays très pollueurs vont briller par leur absence, à l'image du russe Poutine, du brésilien Bolsonaro et surtout du chinois Xi Jinping. Xi Jinping qui promet toutefois une déclaration écrite. En France, le chasseur auteur du tir sur un automobiliste samedi en Ille-et-Vilaine doit être présenté ce matin à un juge d'instruction. La thèse accidentelle est clairement privilégiée. Le conducteur circulait sur la 4 voies entre Rennes et Nantes quand une balle a touché sa voiture, le blessant grièvement au cou. Son pronostic vital est toujours engagé. Le RSA au cœur d'un bras de fer entre certains départements et le gouvernement. 15 présidents socialistes de conseils départementaux ont écrit ce week-end au Premier ministre. Ils ne veulent pas prendre en charge le versement du RSA pour les salariés suspendus, faute de vaccins ou de passes sanitaires. Pour eux, cela revient, je cite, à faire de ce dispositif de solidarité l'exutoire de la politique sanitaire nationale. Eh bien ce matin, le ministère de la Santé leur répond, Agathe Mahuet, il rejette ces réticences.
On ne va pas laisser seul sur le pavé quelqu'un qui se retrouverait sans ressources, quelle qu'en soit la raison, indique-t-on au ministère, qu'il martèle, nous ne reviendrons pas sur ce principe de solidarité. Nationale. Un conseiller d'ailleurs fait mine de s'étonner que la fronde provienne de présidents socialistes, pourtant attachés à ces questions, dit-il avec sarcasme. La tournure du communiqué des élus est également pointée du doigt. Le texte laisse entendre que l'État vient de mettre en place un dispositif particulier, exprès pour ce cas de figure, qui concerne très peu de monde, alors que c'est seulement le droit commun qui s'applique, répond le ministère d'Olivier Véran. Créer une exception au versement de ce revenu reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. En revanche, le ministère n'exclut pas d'aider financièrement ces départements. De quoi relancer le débat sur une renationalisation du RSA. La Seine-Saint-Denis, elle, va l'expérimenter pour 5 ans à partir de janvier prochain.
Agathe Mahuet, en ce 1er novembre, entrée en vigueur de la trêve hivernale jusqu'à fin mars, il est interdit d'expulser un locataire qui ne paye pas son loyer. Et justement, à l'approche de l'hiver, du changement aussi ce lundi sur les routes de montagne. Dans les communes des massifs montagneux, les automobilistes sont désormais tenus de détenir soit des chaînes dans leur coffre, soit des pneus neige. C'est même parfois tout un département qui est concerné par cette obligation, comme en Savoie, Haute-Savoie, dans le Cantal ou encore le Puy-de-Dôme. Obligation très théorique, en l'absence pour l'instant de sanctions. Il n'y aura pas de verbalisation. d'inscription pour cette première année. Enfin, à Paris, plus question d'envahir des places de stationnement ou les trottoirs pour boire un verre. Les cafés et restaurants doivent retirer aujourd'hui les terrasses éphémères autorisées depuis la crise sanitaire. Retrait provisoire car elles seront de nouveau autorisées au printemps, mais cette fois payantes.
Il est 7h39 en ce jour de la Toussaint. Alexis rencontre avec ceux qui sauvent la mémoire des tombes.
Chaque année, 200 000 tombes sont détruites en France, notamment car la concession n'a pas été renouvelée. Et c'est à chaque fois l'histoire, la mémoire du défunt, mais aussi tout un patrimoine qui disparaît. Alors pour garder une trace, des généalogistes amateurs photographient les sépultures, comme ce bénévole alsacien qu'a rencontré Luc Dreosto dans la région de Célestat.
Dany Ory a voulu immortaliser un riche patrimoine qui risque de tomber dans l'oubli. Par exemple, les plus vieilles tombes du cimetière israélite de Célestat datent de 1605.
Elles sont encore debout, magnifiques, elles sont sculptées, les inscriptions sont en hébraïque. C'est un patrimoine qui est très très important et qui n'a jamais été référencé.
Dany Ory a eu un coup de cœur pour le cimetière israélite de Mackenheim.
C'est un cimetière qui est magnifique, qui est en pleine forêt, c'est arboré, on a l'impression de rentrer dans une clairière et de remonter le temps.
Dany Ory a constaté que l'entretien des cimetières du centre Alsace était globalement satisfaisant.
Les petites communes font de très gros efforts, en fait. Les grosses communes ont un peu plus de mal parce que c'est immense. On a eu le cas du cimetière de Célestat où l'herbe poussait, tout le monde se plaignait, mais personne n'allait l'arracher. C'est pas qu'aux ouvriers communaux de le faire.
À force de photographier des tombes, Dany Ory a appris à aimer l'ambiance des cimetières.
Pour tout le monde, le cimetière est un endroit qui fait peur, alors que non, on apprend beaucoup de choses. Quand on voit les professions, les annotations, on se dit ah bah, j'aurais bien aimé connaître cette personne, et on apprend surtout le silence.
Un silence qui a été troublé lorsque Dany Ory a voulu faire un soir des photos de nuit.
J'étais accroupi en train de prendre une photo, et d'un coup il y a quelqu'un derrière qui me pose sa main et qui me fait bah, vous faites quoi là? Je suis en train de faire des photos noires et blanches. Elle dit ah bah c'est très joli, mais vous n'avez pas peur comme ça la nuit? Alors je dis bah non, c'est un peu angoissant, mais ça va. Et puis c'est là qu'il me répond bah moi aussi quand j'étais vivant j'avais peur.
Voilà, croiser des fantômes, ça fait partie des risques du métier. Reportage signé Luc Dreosto, France Bleu Alsace. Enfin, un coup de chapeau ce matin aux fans de jeux vidéo. Ils se sont relayés tout le week-end sur Twitch pour se lancer des défis et recueillir de l'argent en faveur de l'ONG Action contre la faim. The Event, c'est le nom de cet événement caritatif numérique. Avec cette année, une cagnotte record, 10 millions d'euros, le double de l'an dernier. Vous retrouvez les moments marquants de cet événement et de ce week-end sur franceinter.fr.
Merci Alexis Morel. L'édito politique est à suivre sur un